Est-ce qu'ils sont ils, elles, là? Salut les pirates, est-ce que vous m'entendez?
Croyez vraiment que les pirates n'auront bientôt plus le droit de rêver?
Prêts les enfants?
Oui, capitaine!
J'ai pas entendu!
Oui, capitaine!
Wow!
Radio.
Radio.
Radio. Radio.
Pirate!
Bonsoir Moussaillon et bienvenue sur Radio Pirate, la radio qui pirate ton confinement. Ce soir, on s'installe tranquillement entre nous pour discuter de nos expériences coming out, spécifiquement pour des personnes trans, non-binaires, agenres, gender fluide, bref, entre gens pas cisgenres. On cherchait un sujet d'émission pile au moment où Elliot Page a fait son coming out et du coup c'est venu un peu tout seul vu qu'on n'avait pas forcément abordé le sujet avant. L'idée c'est juste de discuter entre nous de nos différentes expériences et d'échanger avec vous qui nous écoutez si vous avez des questions, des remarques ou que vous voulez partager vos vécus dans le chat. Je vais vous présenter rapidement l'équipage de ce soir. Moi c'est Claire, je m'identifie comme non-binaire depuis vraiment pas longtemps. Avec moi j'ai Alissa.
Bonjour la piraterie, moi c'est Alissa, je suis une meuf trans, j'ai commencé ma transition depuis bien 2 ans et demi maintenant, et je suis out auprès de tout mon entourage.
Draéline.
Ahoy. Ahoy les pirates, moi c'est Draéline, et je suis non-binaire et out dans ma famille comme sur les réseaux.
Et Mal du coup.
Bonsoir camarades. Je suis Mal et je suis agenre. Je suis encore pas mal au placard pour plein de gens de mon entourage et j'essaye justement de gérer mon coming out petit à petit.
On vous laisse un instant avec Small Green Alien par Stevia Sphere et on vous retrouve juste après. Bonsoir, nous revoilà. Comme je vous l'ai dit, l'origine de cette émission, c'était le coming out d'Elliot Page. Moi, les réactions que j'ai vues personnellement, elles étaient relativement bienveillantes, parce que je suis aussi les bonnes personnes. Mais il y a eu aussi des maladresses et des faux pas par les médias, etc., parce qu'ils font pas gaffe. Du coup, le coming out, voilà, ça, c'est des réactions différentes selon à qui on s'adresse. Du coup, je ne sais pas comment ça s'est passé pour vous, vos coming out respectifs. Drylin, si tu veux commencer.
Oui, avec plaisir. Alors, moi, la première fois que j'ai entendu quelque chose concernant la non-binarité, ça a tout de suite fait écho, en fait, avec ce que j'avais vécu au collège. Et je m'y suis retrouvée très vite, mais j'ai mis du temps à me l'affirmer. Et un peu plus de temps à en parler à ma famille. Je m'étais toujours identifiée comme femme parce que c'est ce qu'on m'avait dit, et du coup, à défaut, c'est ce que je me disais. Mais parce que c'était le plus simple, en fait. Enfin, j'avais jamais vraiment adhéré à ça, foncièrement, parce que justement, je m'étais fait la réflexion, il n'y a rien d'autre, et c'est comme ça, c'est tout, en fait. Et en 2016, vers 2016, quand je suis tombée sur le terme, je me suis rendu compte que, en fait, oui, ça me définissait. Parce que je me disais femme par justement défaut, et sinon en fait ça évoquait rien, et le fait que c'était ok que ça m'évoque rien, et que ça m'a fait du bien en fait. Et j'ai mis un moment avant de vraiment m'approprier le terme, parce que je voulais être sûre de moi, parce que je pense que je me disais que j'avais pas le droit de me tromper, enfin... Mais maintenant, je me dis que c'est ok de se poser des questions, de pas être sûre tout le temps vis-à-vis de son identité. Et en fait, quand je me le suis avoué après, du coup, il y avait déjà 2 ans avant que j'avais entendu ce terme. Et après, j'en ai parlé à ma famille courant 2018. Et ça n'a pas été un moment vraiment mémorable, parce que ça s'est passé tellement naturellement que je n'ai pas de souvenir en fait, précis de mon coming out. J'en ai parlé plusieurs fois, souvent à des repas. Ça s'est fait de manière diluée. Il n'y a pas eu de grosses questions ni de conversations entre 4 yeux. Et les questions qu'elle pouvait me poser étaient de surface, on va dire. Il y avait un intérêt parce que c'était pas quelque chose qu'elles avaient déjà entendu. Donc c'était principalement lié à en fait qu'est-ce que ça veut dire. Et en reparlant avec eux dernièrement, je pense qu'il y avait aussi le fait que j'ai pas changé beaucoup de choses quand je me présente. J'ai pas changé de prénom, j'ai pas changé. Enfin les pronoms féminins, ça me fait ni chaud ni froid. Donc il y a pas eu de changement pour elle. Et on en discutait un moment, et en fait, il y a cette écoute qui est vraiment présente, et on m'a clairement dit, si jamais un jour tu veux changer de prénom, de pronom, on sera là pour toi, et ça sera cool. Et donc, en fait, avec ce coming out, il y a eu une réaffirmation de moi, et ça m'a permis, en fait, de reprendre un nouveau départ à ce niveau-là, et de personnellement, de grandir à nouveau, donc parce que je me sentais bien avec moi-même à nouveau. Et je pense que c'est tout. C'est mon expérience vis-à-vis du coming out. Est-ce que, Alissa, tu veux nous parler de la tienne, peut-être ?
Oui, merci. Bah, merci pour la tienne, déjà, Drylin. Du coup, en ce qui me concerne, moi, donc j'ai été élevée quand j'étais petite comme un petit garçon par mes parents. Mais pour autant... j'ai décidé un peu en primaire, je crois, de me laisser pousser les cheveux, et ce qui fait que j'étais perçue par les gens qui me connaissaient pas comme une petite fille. Alors que pour autant, à l'époque, je me posais pas la question, même si je pense que si j'avais mis des mots, enfin, si j'avais eu accès à qu'est-ce que c'est être une personne trans. À l'époque, je pense que je m'y serais identifié. Je m'y serais identifié, oui. Mais voilà, donc ça n'est pas arrivé. C'est à partir du lycée où j'ai appris ce que ça voulait dire être une personne trans. Et j'ai tout de suite été hyper supportive, hyper renseignée, tout ça, pour finalement finir par me poser des questions moi-même. Et à partir de là, quand je me suis fait cette réflexion, j'ai très vite commencé à faire des coming out à mon entourage. J'ai fait ça, un peu en grande pompe, à base de posts sur les réseaux pour que, voilà, histoire que je voulais un changement radical, histoire de, je sais pas, histoire de peut-être de me sentir mieux. Je voulais vraiment qu'on arrête complètement de m'appeler il et que ça passe à elle directement. Donc du coup, j'ai vraiment fait en sorte de prévenir tout le monde. Ça a été mes parents que j'ai prévenus en dernier parce que c'était un peu ce qui était le plus compliqué pour moi, parce que je vivais encore chez eux et je leur parlais tous les jours, donc je me voyais pas ne pas le faire, même si je sais que bien sûr mon expérience est pas forcément universelle. Et du coup, ça s'est pas forcément très bien passé avec mes parents. Mais ils y ont repensé, ils y ont réfléchi, et après voilà, ça leur a paru tout à fait normal. C'était une appréhension de départ, voilà. Et depuis, je suis systématiquement out auprès d'un peu tout le monde. Je me présente assez souvent comme une femme trans, et dans les milieux dans lesquels j'évolue, ça pose relativement peu de problèmes. Voilà. Ça c'est donc pour mon expérience. Est-ce que Claire, tu veux bien nous raconter la tienne ?
Ouais, pas de souci. Du coup, moi, mon expérience du coming out, elle est un peu chelou parce qu'en vrai, j'ai jamais fait de vrai coming out. Même pour ma sexualité, j'ai toujours abordé ça comme une évidence auprès de mes potes. Je me rappelle pas leur avoir dit un jour que j'étais bi, mais je pense que tous ils savent que je suis pas hétéro. Pour ma famille, c'est plus que j'ai pas eu besoin de le dire parce que bah, je suis avec mon mec depuis plus de 10 ans, donc j'avoue que je profite de mon privilège sur ce point-là. Et pour mon identité de genre, par contre, vu que c'est le vrai sujet du soir, le plus compliqué, ça a été de me le dire à moi-même. J'ai toujours eu un problème pour comprendre le genre, et assez jeune, vers 17-18 ans, je me suis intéressée aux questions trans parce que je trouvais ça impressionnant. Qu'on puisse à ce point se dire je suis de tel genre et du coup je vais changer drastiquement ma vie pour ça, avec toutes les complications que ça peut impliquer du coup pour les personnes trans. Mais en fait, c'est à force d'en discuter avec des personnes cis que j'ai compris que en fait ces personnes-là aussi avaient une certitude sur leur genre qui me semblait totalement absurde. Et à force d'en discuter, c'était vers 20 ans que j'ai compris un peu que j'avais pas la même version du genre que les autres, mais j'ai pas à chercher plus loin. Tout simplement parce que je pensais qu'il y avait soit le choix d'être le genre qu'on nous a assigné, soit le choix d'être le genre opposé. Et j'avais pas envie d'être un petit mec blanc, donc rester une meuf, ça me convenait. Et en fait, c'est au début du premier confinement, donc je vais bientôt avoir 30 ans, donc 10 ans plus tard, que j'ai eu le déclic. C'est un peu ridicule comme déclic, c'est en regardant des compilations TikTok LGBTI+. Et en fait, à force de voir des petits jeunes, je veux dire, parce que quand même TikTok, c'est des petits jeunes, qui s'identifiaient non-binaires et qui s'amusaient aussi à donner des définitions absurdes de leur façon de voir le genre, où je me suis dit « Ah, mais en fait, ouais, moi je vois les choses pareilles, quoi. » Et il y a un type qui a dit un truc qui m'a beaucoup parlé, je traduis librement parce que c'était en anglais, il a dit « Moi, je suis un homme comme je suis américain, je suis né comme ça, mais je suis pas du tout convaincu par le truc. » Et c'est quelque chose qu'il a dit avant lui de réaliser qu'il était non-binaire. Et c'est exactement la façon dont j'ai vécu mon genre. Genre, je suis une femme comme je suis française. Si demain on me disait qu'on s'est planté dans les papiers et qu'en fait je suis belge parce que je suis née en Belgique, ok, bah du coup je suppose que je déménage en Belgique parce que c'est plus simple et voilà. Ça change pas grand-chose à ma vie. À part le déménagement. Du coup, niveau coming out aux autres, sur ce point-là, j'en ai pas fait. Je me suis plaint sur Twitter quand j'étais un peu paumée et pas bien parce que je me posais beaucoup de questions. Du coup, ma sœur qui me suit sur Twitter est au courant. Je l'ai pas dit clairement en fait. Je n'ai jamais parlé à personne d'autre. J'en ai pas parlé à mon mec ni rien. Et ça fait aussi partie de mon côté privilège. J'ai toujours été une meuf un peu garçon manqué qui fait des trucs chelous et qui fait ce qu'elle veut en fait au niveau de son expression de genre, on va dire. Et ma non-binarité, elle n'implique pas des changements radicaux pour l'instant. Du coup, ce que je renvoie aux autres autour de moi, ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Je ne rejette pas du tout l'idée d'un coming out, parce que ça peut être bien pour se sentir plus soi-même, etc. Mais je pense que quand j'étais ado, je ne le faisais pas parce que c'était une idée de contradiction de les hétéros, il ne faut pas de coming out, alors pourquoi moi j'en ferais un ? Et en fait, aujourd'hui, c'est aussi une question de flemme et de... J'ai pas ultra besoin de le faire.
Et c'est pas mon inquiétude principale, donc je pense que ça viendra un jour, mais ce sera pas demain, quoi. Du coup, voilà pour mon non-coming out personnel. Mal, si tu veux parler de ton expérience.
Oui, merci beaucoup. Du coup, de mon côté, c'est relativement récent, on va dire, en tout cas le coming out à moi-même. Tout simplement parce qu'au départ, je pensais pas spécialement être d'un genre différent de celui qu'on m'avait assigné à la naissance. Et il se trouve que c'est en étant alliée de personnes trans dans mon entourage que j'ai fini par m'en rendre compte, tout simplement parce que je comprenais pas pourquoi, une fois que j'ai été, on va dire, sensibilisée à ce qu'était la transphobie, je comprenais pas pourquoi justement des choses transphobes, mais qui n'étaient pas dirigées vers moi, ça me mettait dans des états vraiment à me faire pleurer, à me faire des crises d'angoisse. Et je comprenais pas pourquoi je me disais, enfin l'empathie, ok, mais quand même là à ce point-là, c'est quand même assez violent. Et en fait, c'est comme ça que je me suis rendu compte. Je me dis, eh, mais peut-être que c'est parce que ça fait résonner des trucs plus profondément et que du coup, peut-être parce que aussi ça me concerne. Et c'est comme ça que j'ai fini par réaliser qu'effectivement, enfin en tout cas quand j'ai vu un peu les ce qu'était la non-binarité, ce qu'était plus particulièrement le fait d'être agenre, ça m'a percuté. J'ai dit mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et ça a débloqué ça. Quand on dit oui, toutes les pièces du puzzle commencent à se remettre ensemble. Mais moi, ça m'a fait pareil sur plein d'éléments sur toute ma vie en fait que j'avais vécu. Et ça a fait prendre du sens à énormément de choses. Et c'est comme ça que je m'en suis rendu compte. Donc au début, voilà, je me disais non-binaire, et en fait, plus particulièrement, du coup, agenre. En fait, ça dépend après si on considère que non-binaire, c'est un terme parapluie ou pas. Mais en tout cas, voilà, la précision, c'est agenre. Et du coup, alors pour le coming out, du coup, je l'ai fait avec les personnes proches de mon entourage, mais pas avec tout le monde, parce que je suis encore assez terrifiée des réactions des gens. Même si je sais rationnellement que ça va bien se passer parce que ça s'est bien passé avec d'autres gens, j'ai vraiment j'ai des soucis d'anxiété également derrière, donc du coup, ça aide pas à prendre confiance et à se dire « Ok, je franchis le pas et je fais mon coming out aux amis ». Je parle d'entourage et d'amis tout simplement parce que en fait, je suis fâchée avec ma famille, donc ça règle cette question-là. Et du coup, voilà, j'ai envie de le faire au plus de monde possible, mais ça se fait vraiment à petits pas parce que je suis vraiment terrifiée de la réaction des gens et du coup, j'ai tendance à faire l'autruche et à me dire « bah vaut mieux que ça se passe comme avant ». Quitte à ce que ça me fasse mal, plutôt que de prendre le risque de me confronter à l'inconnu et d'avoir des réactions négatives. Sachant que jusqu'ici, toutes les personnes à qui je l'ai fait mon coming out, ça s'est très bien passé. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut que je travaille sur moi, de prendre confiance et de pouvoir m'affirmer comme je suis. Voilà, donc après, moi, c'est vrai que je suis habituée à être du coup mégenrée et à être perçue dans un genre différent du mien. Mais c'est vrai que j'aimerais pouvoir réussir justement peu à peu à être acceptée en tant que personne agenre. Et je sais que ça va être difficile, mais je sais que je vais être soutenue et c'est, je pense, le plus important. Voilà pour ma présentation. Du coup, on va pouvoir écouter maintenant la présentation, le témoignage de Circé. Donc, c'est une camarade pirate qui ne peut pas être là avec nous ce soir et donc qui nous a fait une capsule, donc un enregistrement, pour nous parler de son coming out perso, de son coming out public et de comment elle a vécu sa transition pendant le confinement. Voilà, donc on écoute.
Bonsoir les pirates, c'est Circé. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes coming out et je vais faire un petit laïus aussi sur la transition en période de confinement parce que c'est pas toujours facile. Je dis mes coming out parce que je trouve qu'il y en a plusieurs. Il y a d'abord le coming out qu'on fait à soi-même, c'est-à-dire que vouloir faire une transition, c'est un processus, je pense, qui est assez long, en tout cas c'est mon expérience. Moi, je me suis rendu compte pendant mon adolescence, je me suis fait la réflexion que je voulais être une femme, Mais c'est que des mois après que j'ai appris que c'était possible de transitionner, et c'est aussi des semaines après que j'ai compris toute la transphobie qui existait dans la société, du coup j'ai un peu refoulé ça, et le fait qu'il y avait une personne trans au collège pour qui c'était un peu l'horreur, m'a vraiment bien aidé à refouler ça pendant des années. Et du coup, c'est que, je sais pas, quasiment 10 ans après, que je me suis rendu compte que j'avais toujours cette envie-là, c'était plutôt des idées fugaces, et que je me sentais prête à faire cette transition et de l'annoncer à d'autres personnes. Du coup, ça a mené à un coming out auprès de mes proches, de ma copine, mais aussi de mes amis. Et ça s'est plutôt très bien passé, j'avais que des amis bienveillants et un peu informés, ou pas trop, mais en tout cas toujours très bienveillants et plutôt curieux. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé. J'ai un souvenir ému qui me revient, c'est celui d'une soirée où j'ai annoncé du coup à pas mal de monde ma transition, et j'ai fini étouffé sous une pile de câlins, c'était génial. Donc voilà, donc ça c'est vraiment très bien passé. J'ai l'impression que c'était vraiment pas le plus dur. Ce qui a été plus compliqué, c'était de l'annoncer à mes parents. Je pense que c'est le cas pour pas mal de monde. Et moi, petite difficulté qui peut servir en temps de confinement, enfin qui est un peu similaire en temps de confinement, c'est le fait que mes parents n'habitaient pas en France et qu'ils habitaient plutôt loin, et du coup, je pouvais pas attendre de les voir, et j'ai dû donc faire un coming out par Skype, ce qui était un peu une catastrophe en tout cas. C'était pas comment j'aurais voulu le faire, et je pense que ça explique quelques difficultés qu'ils ont, même si ça n'explique pas tout. Le coming out ne peut pas, enfin, vous pouvez faire le meilleur coming out du monde, et en fait, si les personnes sont pas prêtes à l'entendre, elles vont pas bien réagir. L'important, c'est ce qui se passe après, c'est de vous mettre une distance, de pouvoir un peu tenir la ligne, et aussi de conserver ou de accéder à l'autonomie, qu'elle soit financière et ou relationnelle, on va dire. C'est quelque chose qui aide beaucoup pour pas se sentir piégé, on va dire. Enfin, en tout cas, moi, ça a été le fait d'avoir de l'autonomie m'a beaucoup aidé. Mais c'est pas le cas de tout le monde, et c'est là où c'est très compliqué. Je vais aussi un peu vous parler de ma transition en période de confinement, puisque c'était pas extrêmement simple. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé ma transition médicale, je voulais commencer ma transition médicale en fin 2019, mais sauf quand les temps d'attente pour l'endocrinologue et le fait qu'il fallait que je fasse ma préservation de gamètes, ça a pris un peu de temps, parce que je voulais préserver mes gamètes, et sauf que je voulais le faire en Belgique, puisqu'en France, on peut pas, dans l'état actuel de la loi, ça peut changer, mais utiliser nos gamètes dans le cadre d'une PMA, par exemple. Et du coup, je suis allé en Belgique, et c'était juste avant le confinement. Et du coup, je n'ai pu faire que le premier rendez-vous pour lancer le processus. Donc c'est un rendez-vous qui dure une demi-heure et qui se passe très bien. Mais après, du coup, y a eu le confinement, et j'étais un peu bloqué, parce que du coup, je ne pouvais pas continuer ce processus de préservation de gamètes qui est important de faire avant de commencer une transition hormonale. Et mon rendez-vous d'endocrinologue a été annulé puisque ce n'était pas possible. C'est là où je me suis rapproché de l'association OutTrans sur Paris. J'ai vraiment un conseil pour vous, c'est vraiment rapprochez-vous des associations. Elles font un travail assez incroyable de partage de ressources, et ça facilite vraiment la vie. Et donc l'association m'a donné le contact d'une médecin généraliste qui s'est formée au traitement hormonal, et c'est donc la médecin qui surveille ma transition. Et là, ça s'est vraiment bien passé. J'ai pu en plus faire des téléconsultations, et ça a donc facilité le processus, puisque dès que j'ai fini ma préservation de gamètes, j'ai pu aller la voir et tout de suite avoir les hormones. Et donc c'est quelque chose que je conseille de passer pour les associations qui connaîtront des praticiens et des praticiennes qui vous aideront. Et en plus, parfois, elles connaissent bien les astuces pour réduire les délais si vous êtes pressé. Voilà, c'est tout pour moi. Bonne soirée.
Merci beaucoup Circé pour cette capsule. Vous êtes toujours sur Radio Pirate. On est toujours à vitesse de croisière avec Claire, Draëlin et Mal pour vous parler de nos vécus en tant que personnes trans. On vous a livré nos réflexions et puis nos expériences sur le coming out. Et on a écouté la petite capsule de Circé qu'on remercie chaleureusement, qui vous fait aussi savoir que si vous voulez parler préservation de vos gamètes, vous pouvez la contacter via Twitter. Son at c'est CCThatWalk. Maintenant, on va un peu parler de thématiques plus générales sur nos différents vécus au travers de notre transidentité. Et on voulait vous parler dysphorie et euphorie de genre et un petit peu de ce qui nous rend euphorique ou non et de nos expériences vis-à-vis de ça. Et du coup, en ce qui me concerne, pour commencer, j'ai beaucoup socialisé au début de ma transition à moi avec des mecs trans, surtout, à qui ça faisait un bien fou de s'approprier leur masculinité. Pour qui c'était quelque chose d'incroyable d'avoir des vêtements masculins, etc. Et je me sentais un peu en décalage avec ça parce que on en parlait dans l'émission avec Valérie Ray Robert il y a 2 semaines, mais ce qui est dans notre société patriarcale, ce qui est identifié comme féminin est très dévalorisé. Et du coup, moi, personne perçue en tant qu'homme, portant des vêtements, du maquillage, perçu comme féminin, eh ben, ces sujets, je pense en tout cas, à beaucoup plus de jugement et potentiellement de haine de la part des gens. Et moi, le fait de porter des vêtements féminins, par exemple, ça s'est toujours traduit par une espèce, au-delà de l'euphorie. L'euphorie était très souvent contrebalancée par une espèce de calcul de, en gros, si je porte ça, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois modifier dans mon comportement, comment je dois trafiquer ma voix pour potentiellement éviter de me faire taper. Du coup, l'euphorie de genre, je la ressentais pas tant que ça. Et je pense que je ressentais pas vraiment de dysphorie avant de transitionner, et c'est le fait de transitionner, et donc pas le fait de transitionner en soi, mais le regard que la société porte sur moi, qui a commencé à me faire ressentir de la dysphorie. Du coup, voilà, si quelqu'un veut réagir, n'hésitez pas.
Effectivement, enfin, je vois ce que tu veux dire, oui et non, c'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire, mais je pense que effectivement je ne ressens pas ce que tu as ressenti pour le coup, parce que effectivement je suis dans le cas inverse. C'est-à-dire que effectivement, en fait déjà de base, j'étais assez masculin dans ma manière d'être, de base, et d'ailleurs ça m'a posé, enfin, problème. J'ai pas de violence physique, mais de la violence psychologique de la part de la famille, parce que je me maquillais pas, je suis pas spécialement des habits fancy féminins, enfin, et du coup c'est vrai que à partir du moment où je me suis affirmée en tant que dans ma transidentité, du coup ça a été c'était plus facile en fait de porter ces vêtements masculins là, mais du coup effectivement comme tu le soulignes, j'ai pas ce calcul-là de me dire est-ce que ça va me mettre en danger de m'habiller de cette manière. Au contraire, en fait, à partir du moment où j'ai expérimenté de porter un binder, donc c'est pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est un binder, en fait, c'est une pièce de vêtement, enfin, c'est même un sous-vêtement qui compresse la poitrine et donc qui fait apparaître le torse beaucoup plus plat enfin même, enfin voilà, qui camoufle en fait la poitrine. Et à partir de ce moment-là, en fait, où du coup les gens avaient beaucoup moins facilement tendance à me mettre dans la case femme, là ça m'a fait un, enfin ça m'a fait vraiment de l'euphorie quoi. J'étais vraiment heureux d'être de plus être systématiquement, automatiquement perçue comme une femme en fait dans la rue. Bon, après en général, quand les gens entendent ma voix, directement ils me remettent dans la case qui leur paraît la plus logique. Mais voilà, c'est parce que pour le coup, je pense pas faire vraiment de la dysphorie, pas de rejet de mon corps, pas de gros mal-être. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où, enfin, mon binder, dès que je peux le mettre, je le mets. D'ailleurs, camarades, si vous portez des binders, prenez soin de vous. Et je sais que ça peut être difficile, mais il faut penser à l'enlever régulièrement et au moins une fois par semaine. Avoir une journée complète sans le porter, parce que comme ça compresse très fort, et notamment au niveau des côtes, voilà, c'est important de penser à laisser respirer sa cage thoracique. Je sais que ça peut être compliqué, notamment justement quand les camarades font de la dysphorie, mais voilà, c'est important de prendre soin de vous à ce sujet. Je ne sais pas si Claire ou Draeline, vous voulez prendre... témoigner à ce sujet.
Je venais de le dire dans le chat qu'il ne faut pas porter le binder trop longtemps. du coup, au niveau dysphorie, c'est vrai que moi, j'ai pas trop de dysphorie. Je l'ai ressenti un petit peu du coup, quand je me suis fait mon coming out à moi-même, en fait, ouais, il y a des trucs qui ne me plaisent pas et c'est parce que c'est féminin. Notamment, j'ai de la poitrine, etc. Ça me gênait. Et en fait, je dirais que c'est une dysphorie à géométrie variable. Parce que début du second confinement, j'ai décidé de me raser la tête. Et en fait, ça a diminué l'urgence que je ressentais d'avoir besoin de me faire réduire la poitrine. Et du coup, je pense qu'il y a un côté où si j'ai plus d'éléments masculins, entre guillemets, il y a d'autres choses qui me gênent moins. J'essaie juste d'avoir un équilibre qui me convient. Mais après, c'est vrai que j'ai pas une dysphorie, une grosse dysphorie de ouf. Mais de toute façon, la dysphorie, c'est pas non plus ce qui fait qu'une personne est trans ou pas. Hein. Rappelons-le, il y a des personnes trans qui se sont pas du tout dysphoriques et elles sont pas moins légitimes pour autant, quoi.
Je vais rebondir là-dessus puisque c'est mon cas. oui, moi j'ai ressenti de l'euphorie, mais j'ai pas de dysphorie. Et effectivement, du coup, l'euphorie, elle est surtout liée à cette poitrine en fait, parce que les binders c'est cool quand on les met pas tout le temps, mais le fait de les porter et ça. Il y a un aspect, je m'habille de manière un peu pratique, mais d'un coup j'aime mes habits. Il y a un autre niveau en fait à ça, il y a une autre appréciation vraiment plus forte en fait de ce que je renvoie et j'aime en fait ce que je renvoie du coup à ce niveau-là quand j'en porte un et ça fait tellement de bien, mais du coup c'est vrai que du coup c'est rare parce que c'est le confinement et que le pyjama c'est le pyjama donc en ce moment, mais de manière générale ouais ça fait du bien.
Après moi du coup juste le confinement ça m'a aidé au niveau dysphorie aussi, parce que du coup je m'habille un peu comme un sac, et vu que les mecs s'habillent comme des sacs généralement, il y a ce côté voilà, j'ai l'impression que mes fringues de confinement correspondent plus à un type masculin entre guillemets que...
On a ce cliché du mec qui prend pas soin de lui et du coup
voilà, je suis en jogging t-shirt dégueu voilà.
Moi c'est un peu l'inverse en vrai du coup, parce que en effet moi aussi je prends peut-être pas forcément le temps de m'habiller, de me maquiller machin pendant le confinement, et du coup et aussi j'ai des problèmes au niveau du rasage. Je peux pas me raser tous les jours sous peine d'avoir des gros problèmes de peau, parce que j'ai dû faire, enfin, je pense parce que j'ai dû faire les traitements contre l'acné, des traitements lourds. Donc, du coup, j'ai la peau très fragile. Et du coup, le fait de pas me raser, d'être obligé de pas me raser pendant un certain temps, je sais pas si, enfin, c'est pas de la grosse dysphorie non plus, ça va, j'en suis pas à avoir besoin d'une épilation au laser là maintenant, mais ça me plaît pas. Toujours est-il, et pendant le confinement, bah, j'en profite pour essayer de soigner ma peau, et du coup, je me rase encore moins régulièrement. Et voilà, moi je suis pas convaincu par le confinement comme guérison de ma dysphorie. Du coup, est-ce que si on a fini sur ce sujet, on pourrait peut-être passer à ce dont on parlait avant en préparant l'émission. Qui est les clichés, qui sont le sujet des clichés qu'on a sur les personnes trans de manière générale ou telle ou telle partie du spectre de la transidentité. Je sais que moi, en tant que femme transgenre, je vous ai dit il y a quelques minutes que ça s'était pas très bien passé avec mes parents tout au début quand j'ai fait mon coming out. C'était notamment ma mère qui l'a très mal pris, parce que j'ai l'impression que on a vraiment beaucoup ce cliché pour, en ce qui nous concerne, nous, les femmes trans, la femme trans qui se prostitue et qui est droguée, machin, et qui vit en région parisienne dans une caravane. Alors, ça décrit une réalité. Il y a des gens qui, il y a des adelphes qui évoluent comme ça, et c'est pas, je suis pas du tout en train de nier leur vécu ni leur situation dans ce que je dis, mais j'ai l'impression, surtout par des personnes assez âgées en vérité, que c'est perçu un petit peu comme un destin fatidique auquel nous allons toutes prétendre, nous les femmes trans. Et voilà, pour moi, ça fait partie des clichés qui font pas mal de mal, des clichés transmisogynes, du coup, n'hésitons pas sur les mots.
Tell the world.
C'est ça. Donc voilà, si vous en avez, vous, de votre côté.
Du coup, moi, ce que je disais aussi, j'ai mis du temps à m'identifier comme non-binaire, mais c'est aussi parce qu'il y avait le cliché du non-binaire, c'est la personne parfaite entre l'homme et la femme, et c'est la personne où tu peux pas dire si c'est un homme et une femme, et que tu sais pas. Et en fait, du coup, voir des petits jeunes qui assumaient qu'ils étaient non-binaires, mais qu'ils étaient non-binaires comme ils étaient, genre il y avait des non-binaires qui étaient assignés femmes et qui se maquillaient et qui n'en avaient rien à foutre, en fait, ou des non-binaires assignés mecs qui gardaient leur barbe, etc. Genre, en fait, voir qu'il y avait beaucoup de... En fait, non, c'est pas que les personnes androgynes. Et je pense que ça a beaucoup retardé ma réalisation par rapport à moi-même, d'une certaine manière.
Alors j'ai un peu lâché deux secondes, donc du coup je reprends juste sur peut-être l'androgénéité. C'est il y a eu un moment où c'était pour moi un objectif à atteindre, parce que je me disais que c'était plus simple, ou alors que il y avait je pensais vouloir tendre absolument à un entre deux. Mais il s'est avéré que non. Mais ça, c'est ma situation particulière, naturellement. Enfin, c'est pas, c'est juste ma réflexion dessus. Je pense qu'il n'y a pas après m'être affirmée et avoir fait du coup oralement mon coming out et tout, ce besoin-là d'androgénéité, il était moins présent. Il y aura certainement plus tard une opération pour plus avoir de poitrine et tout, mais pour moi, mais il n'y a pas, du coup, il y a plus cette recherche d'un style vestimentaire particulier ou de... Il y a... Parce que justement, je pense qu'il y a eu une affirmation de moi et une confiance en moi dans ce coming out, en fait, verbal. Et dans l'acceptation qui en a suivi, en fait. Mmh. Est-ce que tu voulais réagir, Mal, peut-être ?
Oui, ben, en fait, pour le coup, c'est vrai que... J'étais un peu... Enfin, j'étais enfermée un peu dans ce cliché au départ sur le fait que pour être non-binaire, en fait, il faut être androgyne, alors que c'est absolument pas le cas et que l'expression de genre, c'est complètement différent de l'identité de genre. Et donc, il a fallu que je me déconstruise sur ça aussi. Et il y a quelque chose aussi que j'ai remarqué, j'en fais pas non plus une généralité, mais c'est je pense aussi quelque chose que j'ai remarqué parce que ça me concerne. Mais il y a certaines personnes non-binaires ou transmasculines de manière générale, donc c'est-à-dire des personnes qui vont tendre plutôt vers le côté masculin du spectre de genre, qui, parce que elles et ils ont des physiques petits, des traits juvéniles, etc., on a tendance beaucoup à infantiliser, en fait, ou à dire « Oh, c'est trop mignon, c'est trop cute ». Et autant quand les personnes vous disent c'est ok de dire ça, très bien, mais quand vous connaissez pas les gens ou quand vous savez que ça gêne, il vaut mieux éviter en fait de manière générale parce que c'est vrai que c'est très infantilisant et je pense qu'il y a un petit peu. Alicia, tu parlais des clichés sur les meufs trans et je pense que pour les mecs trans et pour les personnes transmasculines, il y a ce côté très. Beaucoup d'infantilisation et de côté c'est des petites choses fragiles à protéger. Enfin. Qui peut être très malsain, en fait.
Je pense que ça nie aussi un peu l'identité trans ou non-binaire ou à genre. Parce que du coup, c'est un peu le côté... c'est les femmes, normalement, qui sont les petites choses fragiles à protéger. Et du coup, ça ramène aussi beaucoup à ce...
Au genre. Il y a une volonté de nier, ouais. Du coup, en parlant de ça, il y a peut-être une autre question qui serait intéressante de se poser. C'est vis-à-vis du dead name ou du morinon. Donc le dead name, pour les personnes qui regardent et qui ne savent peut-être pas, c'est le nom qu'on nous avait donné à la naissance, mais qu'on ne veut plus utiliser en tant que personne trans, puisqu'on a choisi un autre prénom, un prénom d'usage qui devient après notre vrai prénom, si on fait une transition sur les papiers, on va dire. Et voilà, donc il y a certaines personnes qui le gardent, et qui du coup le garde pas. Moi je sais que du coup c'est pas un dead name si on le garde, mais je sais que moi je le garde principalement par habitude en fait. Enfin, il me fait littéralement ni chaud ni froid, mais parce que j'ai passé 20 ans de ma vie à ce qu'on m'appelle comme ça, c'est plus simple de le garder. Et la simplicité. Mais le. À partir de là, c'est vrai que du coup, comme j'avais dit, ça a facilité grandement les discussions autour de mon coming out parce qu'il n'y avait pas eu de changement radical à ce niveau-là, en fait. Donc, mais personnellement, il ne me dérangeait pas non plus. Donc, c'est pour ça que je l'ai gardé par simplicité. Je sais pas si ça fait écho. Hein.
Ouais, c'est tout à fait, parce que en effet, moi ça a été l'absence de changement radical qui m'a un peu desservi, dans la mesure où moi j'ai voulu garder mon dead name au début, tout en changeant mes pronoms. Et mon dead name n'était pas neutre, il était plutôt masculin. Et à l'époque, donc ça faisait. Moi aussi, c'était aussi par habitude parce que je l'aimais bien mon prénom. Donc ça faisait 16 ans que je le portais aussi. Donc bon, à un moment, je n'avais pas très envie d'en changer. Ça me paraissait un peu compliqué cette histoire. Sauf que j'évoluais à l'époque, donc j'étais chez mes parents, je suis toujours chez mes parents d'ailleurs, et du coup, Bah, pour eux, c'était super compliqué de m'appeler par un nouveau prénom, de m'appeler par mon ancien prénom et avec des pronoms qui changent. Du coup, et c'était compliqué pour pas mal de monde aussi, et du coup, c'est un peu pas par obligation, mais par désir de simplicité, parce que pour moi, c'était vraiment trop important que mes pronoms changent. Et j'ai fini par changer de prénom après. Mais au début, je voulais vraiment garder mon dead name, qui était pour autant masculin, mais qui ne me dérangeait pas.
Et pour le coup, de mon côté, hein, moi, j'avais un rejet de mon dead name assez violent, mais avant même mon coming out à moi-même, en fait, j'ai toujours détesté mon prénom. C'était vraiment quelque chose de compliqué. Et en fait, du coup, j'avais un surnom que je... Et tout le monde m'appelait avec ce surnom, en fait, qui était beaucoup, pour moi beaucoup plus agréable. En fait, et au final, il n'y avait vraiment que les administrations et ma famille qui m'appelaient avec mon dead name. Donc j'avais déjà un peu, je pense, cette idée de voilà, mon dead name, c'est vraiment pour la famille d'administration et toutes les autres personnes, c'est mon surnom. Et du coup, quand il y a eu la question de mon coming out et de ma transition, je me suis dit, ah, mais en fait, oui, je suis légitime à changer de prénom si j'en ai envie. D'ailleurs, que d'être trans ou pas, hein, je pense que tout le monde est tout à fait en droit, en fait, de se questionner par rapport à son prénom et de choisir d'en changer si jamais. Parce qu'il y a toute cette symbolique par rapport à la famille, par rapport au fait que c'est les parents qui l'ont donné. Des fois, il y a des significations ou un héritage familial. Enfin, c'est quelque chose de très personnel, mais je pense que justement, chacun a le droit de se questionner à ce sujet-là aussi. Et du coup, changer de... Enfin, j'ai trouvé assez facilement mon nouveau nom, donc Mal, enfin, diminutif de Mallory. Mais en fait, au final, enfin, il y a beaucoup de mes amis qui m'appellent encore avec mon surnom et ça me dérange pas, en fait, parce que ça a toujours eu une connotation positive pour moi par rapport à mon dead name initial et lui, vraiment, je veux plus en entendre parler. Et du coup, voilà, c'est quelque chose pour moi qui, en fait, au final, je me rends compte qui date d'avant même mon coming out à moi-même et de ma transition. Je ne sais pas après si Draeline, Claire, si vous voulez ajouter quelque chose.
Bah du coup, Draeline a commencé sur le sujet. du coup, moi...
Oui, pardon, je...
moi, du coup, c'est vrai que je n'ai pas du tout d'expérience là-dessus. Hein, le dead name, j'en ai pas. J'en suis pas à ce niveau-là et je pense que je garderai mon prénom parce que... Pour l'instant, il ne me dérange pas. Et en plus, j'aurais beaucoup de mal à me trouver un autre prénom, vu que j'ai du mal à prendre des décisions dans ma vie. Mais par contre, j'avais vu quelqu'un qui disait un truc intéressant sur le dead name, ce qui est très simplifié, mais par rapport au fait que c'est... Il y a des parents qui font « Non, mais c'est un cadeau que je t'ai fait, et si tu le changes, c'est une atteinte contre moi. » Bon, des parents transphobes, du coup... Et du coup, cette personne, elle disait que oui, mais en fait, quand t'offres des fringues en cadeau, par exemple, si c'est pas la bonne taille, ben en fait, tu vas pas en vouloir à la personne parce qu'elle change. Et c'est un peu la même chose, quoi. C'est pas une atteinte à tes parents, c'est juste que c'est plus ta taille, c'est plus ton truc, ça te correspond plus. Donc voilà, c'est pas une agression envers tes parents d'en changer, quoi. Du coup, voilà pour le dead name. Un truc qui est pas loin, du coup, c'est le changement des pronoms. Moi, j'ai pas du coup changé de pronom parce que déjà, il n'y a pas de pronom neutre facile en français. En anglais, c'est vachement plus simple. Et aussi, je pense que j'ai un problème d'habitude. Je pense que ça me perturberait vachement. Ça fait 30 ans qu'on me genre au féminin, changer d'un coup, ça me perturberait beaucoup. Alors que, en fait, c'est beaucoup plus simple quand je parle en anglais ou quand j'échange en anglais, parce que du coup, c'est pas ma langue maternelle, donc c'est pas mes habitudes. Et du coup, voilà, juste sur les pronoms, par rapport à moi. Je ne sais pas si vous voulez parler de vos changements de pronoms personnels.
Alors pour le coup, c'est vrai que j'utilise Yel un peu par défaut. Ça ne me convient pas tout à fait. J'aimerais en trouver d'autres. Donc c'est vrai que je suis un peu en train d'explorer les néo-pronoms un petit peu, mais je n'ai pas encore arrêté mon choix. Donc c'est vrai que Yel, c'est un peu celui par défaut, celui qui est le plus connu, entre guillemets, des pronoms neutres. Mais voilà, c'est vrai que de mon côté, c'est un peu compliqué. Mais après, comme tu dis, effectivement, c'est plus complexe, je pense, en langue française, de parler au neutre de manière générale, par rapport à l'anglais, par exemple.
Ouais, tout à fait. Pour ce qui est de l'écriture inclusive, on sait que c'est clairement pas un système qui est parfait du fait de notre langue qui est déjà sexiste en soi. On sait que ça pose des problèmes pour... c'est du surcouchage, l'écriture inclusive, c'est du surcouchage linguistique sur une langue qui est déjà excessivement compliquée. Et ça pose des problèmes à des gens qui ont des lecteurs d'écran sur Internet, ça pose des problèmes aux personnes dyslexiques, et du coup, je sais qu'il y a notamment le projet Alferats qui a été discuté à une époque, et il y a pas mal de linguistes qui portent des projets de refonte radicale de la langue française pour la simplifier, et notamment pour ce qui est de la simplifier, d'abandonner le système de genre, ce qui a déjà été fait dans d'autres langues. Et en effet, je suis pas une personne non binaire moi-même, donc j'ai pas forcément l'expérience de me genrer moi-même avec l'écriture inclusive. Mais en effet, je pense que ça pourrait être une alternative vraiment complète et vraiment satisfaisante pour ce qui est des pronoms. Pour parler, finir du coup sur mon propre petit moi personnel, de mon rapport aux pronoms, moi, je les ai tout de suite changés et je les ai tout de suite changés au féminin. Et pour moi, c'était vraiment le truc le plus important. Je ne sais pas exactement pourquoi, d'ailleurs, mais voilà. C'est vraiment la volonté que j'ai eue, ça a été de changer mes pronoms à tout prix. Est-ce que vous avez encore des petites interventions à faire, Claire, Mal?
Non, tu as évoqué le projet Alferats, donc c'est nickel. J'ai rien de plus à ajouter du coup.
Moi, je voulais juste dire, parce que du coup, je commence à me poser des questions à mes 29 ans sur qu'est-ce que je suis, on va dire. Si vous vous posez des questions toute votre vie sur est-ce que vous êtes vraiment cis, c'est peut-être que vous ne l'êtes pas. Voilà, c'est juste ça.
Avec des camarades d'ailleurs, on se faisait la réflexion que les meilleurs alliés, en fait, souvent finissent par sortir du placard aussi à un moment ou à un autre. Il y a aucune, enfin voilà, c'est plus une plaisanterie qu'on a entre nous, mais voilà, c'est
vous êtes trans.
En parler aussi.
Vous êtes trans, sortez de ce placard. Nous sommes ici pour représenter le lobby LGBT.
Un agenda à faire respecter, tout à fait.
Exact. Si vous n'êtes pas 14 convertis ce soir, nous serons
fouettés. On perd nos subventions.
Non, notre argent.
Pardon. En tout cas, notre agenda à nous, il va être terminé parce que malheureusement. Mais ça nous a fait plaisir vraiment de pouvoir être avec vous ce soir et que vous ayez assisté à notre discussion sur nos vécus de coming out. Notre équipage trans a été très ravi de vous emmener sur cette croisière ce soir. On a quelques petites choses après en conclusion, puisque on va pas vous laisser juste comme ça, avec Il y a les modérateurs qui vont mettre dans le chat les liens vers plusieurs choses. Donc, il y a la BD de Sophie Labelle, donc Assigné Garçon, qui est une BD vraiment très très bien sur elle, son expérience de vie. Ça aborde vraiment plein de sujets et c'est une bonne introduction sur plein de thématiques trans. Il y a également la Féministerie qui fait des ateliers vis-à-vis du coming out. Le dernier en date était hier soir. Et il y a en cours un Google Form concernant de la visibilité de vécu. Si vous avez subi des injonctions faites aux femmes durant votre vie, que vous avez subi des restrictions et des préjugés vis-à-vis de ça, et que vous avez envoyé valser l'ordre établi, il y a le projet Les Redoutables qui met en place du coup des courts-métrages vis-à-vis de ces vécus que vous pouvez leur raconter sur ce Google Form. Voilà. Donc, moi, c'est Draéline. On était avec Alissa, Claire et Mal ce soir. Et merci à vous, les pirates.
Merci.
Merci. Et merci donc à Rogue One à la tech et monsieur B à la modération. Et évidemment, merci à tous les pirates et à tout l'équipage.
Merci beaucoup, tout le monde. À bientôt, les pirates.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Dans des situations de confinement, les violences conjugales et intrafamiliales s'accentuent. Confiné avec un conjoint, un père violent, le risque peut être plus grand. Mais vous n'êtes pas seul. S'il est déconseillé de sortir, il n'est pas interdit de fuir. Si vous ou l'une de vos proches est victime de violences à son domicile, il existe des numéros, des associations que vous pouvez contacter. Le 3919 est le numéro gouvernemental contre les violences faites aux femmes. Vous pouvez également contacter Viol Femmes Information au 0800 05 95 95. Ces deux numéros vous accompagneront en ce qui concerne des démarches de plainte, d'éloignement ou simplement pour des conseils. Si vous ou votre proche résidez en Île-de-France, le centre Hubertine Auclair met à votre disposition sur Internet une carte des associations qui accompagnent sur orientationviolence.hubertine.fr. Où que vous soyez, vous pouvez aussi contacter le planning familial le plus proche. Vous n'êtes pas seul. We'll be right back.
yeah,